Une vie, une œuvre, Martha Gellhorn, Saint-Louis, 1908, Londres, 1998. Bonjour. Elle est une des premières femmes reporters. En Angleterre, comme aux États-Unis, elle est la référence. Les photos montrent d'elle une belle jeune femme, le plus souvent en pantalon, regardant franchement l'objectif, comme elle regardera de manière décidée les scènes de guerre. Son écriture est tout aussi franche et directe. Elle est en Espagne, dans la rue, alors que les avions rôdent au-dessus de la ville. Une vieille femme traverse un square, en tenant par la main un petit enfant. Elle écrit sobrement « Cette femme pense qu'elle doit ramener le petit garçon à la maison, parce qu'on est toujours plus en sécurité chez soi, au milieu des choses que l'on connaît. » Une fois l'obus tombé, elle ajoute « La vieille femme reste sans bouger, tenant par la main l'enfant mort, le regardant avec un air idiot, ne disant rien. » Elle raconte dans « Mes saisons en enfer » cinq expériences majeures. Son premier voyage en 1941 sur le front chinois entre Hong Kong et Canton pour le magazine Colliers. Le deuxième à la poursuite des sous-marins nazis dans les Caraïbes. Le troisième, une traversée d'ouest en est de l'Afrique le long de l'équateur. Quatrième, Moscou dans la Russie soviétique. Cinquième voyage, Israël. Pauline Maucor signe avec Marie-Laure Ciboulet « Une vie, une œuvre » Martha Gellhorn.
Ce que j'aime chez Gellhorn, c'est qu'elle n'est justement pas dans le côté écrivain voyageur qui vous dit j'ai 153 timbres sur mon passeport et tout ça. Et d'ailleurs, à certains moments, elle se moque d'elle-même. Elle est un peu, parfois un peu, comme on dirait, bécassine en voyage quand même. Elle a un côté, elle ne supporte pas les insectes, elle a toujours peur de tomber malade. La vue de la misère, ça la met dans des états, et la vue de la saleté la met dans des états absolument atroces. Elle parle pas de langue étrangère, donc elle est toujours un peu à la merci de traducteurs qui sont forcément tous très mauvais, donc ça donne des choses très comiques. Mais justement, j'aime ça, moi, chez Gellhorn, le côté je suis pas le super reporter de guerre avec les poches photographes sur le gilet et tout ça. D'ailleurs, quand on voit les photos de Gellhorn à la guerre d'Espagne ou en Chine, c'est absolument incroyable. Elle a des grands manteaux avec des cols en fourrure, elle a le petit pantalon en tweed, les chaussures de ville et tout, et elle est sur le front espagnol face aux franquistes, quoi. Il y a un côté grande dame en voyage, elle est totalement décalée, quoi.
Trop heureuse de pouvoir remettre le shopping à plus tard, je fis un compromis en achetant une bouillotte Boots flambant neuve et me lancer dans ma traversée du continent noir, armée de cet accessoire, d'un pantalon de laine et d'un pull-over chaud, de trois robes en coton, de deux paires de chaussures de ville et d'un grand chapeau de paille de pêcheur espagnol.
Martha Gellhorn racontait la guerre toute sa vie. Pauline Maucor, Marie-Laure Ciboulet.
From Martha's work, I always remind myself from the way she worked, from the way she lived, from the way she thought, and from the way she loved.
Grâce à l'œuvre de Martha, j'essaie toujours de me souvenir de la façon dont elle a travaillé, vécu, pensé et aimé. J'ai appris à être forte, indépendante, comblée, autosuffisante. J'ai appris à croire en la valeur de mon travail, même si je peux me sentir insignifiante dans ce vaste univers, à travailler tous les jours, quoi qu'il arrive. En lisant ses lettres et ses écrits, j'ai essayé de comprendre comment elle pense. Ce sont les valeurs qu'elle m'a transmises et ce sont les valeurs que j'ai en tête dans ma vie et mon travail.
Je veux écrire. J'aime travailler. Le travail et l'écriture sont mes refuges. Finalement, c'est la seule chose qui ne me remplit pas d'ennui, de consternation ou de doute. C'est la seule chose que je sais être absolument et irrévocablement bonne en elle-même. Peu importe le résultat. Je veux voyager partout, tout voir et l'écrire à ma manière.
Vous auriez adoré rencontrer Martha Gellhorn. Une fin d'après-midi à Londres, vous vous seriez rendu dans le quartier de Chelsea, devant une maison à pignons et briques rouges de style victorien. Vous auriez poussé la lourde porte en fer forgé et verre biseauté, jeté un rapide coup d'œil dans le miroir, le grand miroir du hall d'entrée, pour vérifier votre tenue, parce que ça avait de l'importance, la tenue. Puis, vous vous seriez faufilé dans le vieil ascenseur branlant en priant qu'il ne se décroche pas avant d'atteindre le cinquième et dernier étage. Là, vous auriez trouvé Martha sur le pas de la porte dans un pantalon et un chandail noir, des chaussures de marque élégantes, avec un trait de rouge à lèvres, ses cheveux gris argentés coupés au carré légèrement bouclés, affichant un sourire malicieux et un regard pétillant. Martha vous aurait alors invité à vous asseoir sur l'un des deux sofas recouverts de tissu bleu cobalt. Elle aurait pris place dans le fauteuil qu'elle ne quittait jamais et vous aurait offert un verre de whisky, celui avec un oiseau d'Écosse au plumage roux sur l'étiquette, avec des glaçons, essentiels les glaçons. Au bout de son porte-cigarette, elle aurait allumé une mentholée, elle aurait plissé les yeux à cause de la fumée ou parce qu'elle se concentrait pour mieux vous écouter raconter d'où vous veniez. À son tour, elle se serait mise à raconter, parce que des histoires de guerre, de voyage et d'amour, elle en avait. Marc Kravets, Martha Gellhorn, elle arrive à Paris un jour de printemps 1930. Elle a 21 ans et elle écrit dans une lettre que sa vie commence vraiment à ce moment-là.
Elle écrit « J'ai commencé ma vie en 1931 ou en 1932, je ne sais plus comment elle le dit exactement, ce qui semble assez injuste, compte tenu du fait qu'elle a eu une vie de famille précédente, extrêmement heureuse. C'est tout sauf une enfance qu'elle aurait envie d'oublier ou de mettre entre parenthèses. Alors, elle décide de venir à Paris parce qu'elle décide de voyager. Elle veut à tout prix être indépendante. Pour être indépendante, il lui faut gagner sa vie. Elle arrête ses études dès qu'elle a, en gros, 21 ans. Et ses parents disent, d'accord, tu veux être indépendante, tu l'es. Sa mère l'aide un petit peu, lui paye le voyage entre Saint-Louis, sa ville natale où elle a grandi, dans le Missouri, et New York. Et puis à partir de là, elle va négocier, c'est très caractéristique de ce qui va se passer par la suite. Elle va voir une compagnie de navigation, elle frappe carrément au bureau du patron, elle dit, voilà, je vous fais un reportage à la gloire de la compagnie sur la traversée, en échange d'un billet. Elle négocie son passage, et quand elle sera d'ailleurs à Paris, elle passe directement au bureau du New York Times à Paris en disant « Voilà, je suis votre nouvelle correspondante, je commence quand ?» Le chef du bureau, qui est très gentil, lui dit « Vous manquez peut-être encore un peu d'expérience. » Et la recommande, entre autres, pour aller faire des piges à l'agence United Press. En réalité, ça marche pas très bien, mais elle va gagner sa vie en faisant un peu le mannequin. C'est une très très belle dame. Alors, elle fait des articles publicitaires sur des produits de beauté qui vont lui permettre donc de payer, en tout cas, ses premiers mois de vie parisienne en 1931.
Il ne me reste plus qu'à continuer le chemin avec mon jardin secret, l'écriture. Seule certitude, j'ai un livre à écrire et je l'écrirai. Au début de cette lettre, je te disais que l'écriture me servait à purger mes souvenirs. Elle me sert aussi de rempart. C'est un mur qui me protège des soucis présents, de l'avenir incertain, des gens et de la peur.
En tout cas, elle vient à Paris pour écrire.
Écrire est sa grande passion et sa grande ambition. Elle veut être un grand écrivain américain et elle a un écrivain qu'elle admire. Elle n'est pas la seule, hein. Il est légèrement son aîné, mais il est l'idole de toute la jeune génération intellectuelle. Et on va évidemment en reparler dans peu de temps, c'est Ernest Hemingway.
Travail, opium unique.
Elle travaille tout le temps, elle écrit tout le temps, même des choses qui ne sont pas destinées à la publication.
Chère maman, je te remercie pour ta lettre. Je pense bientôt rentrer à la maison, mais je voudrais d'abord mettre les choses au clair. Je suis désolée d'avoir à vous écrire cette lettre. Peut-être aurait-il été préférable de garder le silence. Mais je veux que tu saches ce que je ressens, que tu saches aussi pourquoi j'ai décidé qu'à l'avenir, je ne tenterai plus de vous faire comprendre les choix de ma vie. S'il te plaît, fais lire cette lettre à papa. Elle lui est également adressée. Et c'est certainement la dernière lettre de ce genre que vous aurez à lire. Avec tout mon amour, Martha.
Elle est née donc à Saint-Louis, dans le Missouri, qui est une grosse ville américaine, mais qui est typiquement une ville provinciale. Et elle est la fille d'un couple formidable.
Ses parents s'aiment beaucoup et c'est un modèle de couple qu'elle, elle n'arrivera jamais à reproduire. Elle ne sera jamais aussi heureuse en amour que l'ont été ses parents.
Non. Est-ce qu'elle a idéalisé la relation entre ses parents? C'est vrai que c'est une relation exceptionnelle. Alors son père, Georges Gellhorn, est un médecin, un gynécologue et un oncologue très réputé. Sa mère, Edna, qui a élevé deux garçons avant, il y a un frère cadet après, avant donc la naissance de Martha, n'est pas une femme au foyer. Elle est une militante pour le droit de vote, les droits civiques des femmes. C'est une famille qui est une famille à la fois très moderne, où en effet on a les idées larges. Simplement, Georges Gellhorn est extrêmement exigeant à l'égard de ses enfants. Il y a des règles. On est invité toujours à prendre la parole et à parler à table. On a même le droit de lire, de consulter des dictionnaires, des atlas à table. Bon. Mais il y a des interdits. L'interdit numéro un, c'est qu'on ne doit jamais procéder par on dit ou par jugement. Et il est de plus particulièrement apprécié qu'on rigole et qu'on fasse de l'autodérision. Rire et faire rire va être l'une des exigences vitales de Martha Gellhorn toute sa vie. Le péché mortel, c'est l'ennui.
La cloche de la bourse de Wall Street paraît scander la vie de Cadet, le Dupont américain.
Et puis, un jour d'octobre 1929, cette cloche annonce l'effondrement des cours. C'est la panique contre laquelle le président Hoover tente de lutter par des propos rassurants.
Donc après les quatre années passées à Paris, Martha Gellhorn rentre aux États-Unis.
Et elle va trouver du travail grâce à un très proche collaborateur de Franklin Roosevelt, qui s'appelle Harry Hopkins, qui est en gros l'homme qui met en œuvre ce qu'on appelle le New Deal.
Et donc, elle fait partie d'un groupe de reporters qui vont aller sonder un petit peu quel est l'état.
En fait, c'est à la fois des enquêteurs, il y a des journalistes parmi eux, il y a des écrivains. Martha, c'est la plus jeune, et elle va faire un peu le tour des zones les plus sinistrées du pays pour raconter comment vivent les gens et de quoi ils ont besoin. C'est l'un des premiers grands livres écrits sur la crise et les conséquences sociales de la crise, auquel elle va donner le titre d'un blues célèbre, The Trouble I've Seen.
People moved towards cities to try to get jobs. And then they lived in something which was called Hooverville.
Martha Gellhorn, en 1983, interviewée par John Pilger.
Les gens quittaient leur ville pour essayer de trouver du travail et certains s'installaient dans des bidonvilles. Ce qui m'a marqué, c'est de voir ces gens à ce point secoués, blessés, perdus et détruits. Mais la chose la plus incroyable pour moi, c'était de voir que tout le monde était paisible. Personne ne se révoltait, aucune émeute, rien. Ils prenaient les choses comme si c'était de leur faute. Ça faisait pitié à voir, c'était horrible. Alors ils sont devenus très inquiets et je partageais leur inquiétude. Je leur ai dit, la seule chose, la seule solution pour vous faire entendre, c'est de casser la vitrine du Woolif, le bureau d'aide sociale du gouvernement américain. Si vous faites ça, vous allez voir qu'instantanément, quelqu'un va venir et vous prêter attention. Personne ne voulait le faire, parce qu'aux États-Unis, ce genre de choses ne se fait pas. Un bon Américain ne fait pas ça. Cependant, après avoir bu beaucoup de bière et beaucoup discuté, finalement, ils l'ont fait. Ils ont cassé la vitrine du bureau d'aide sociale. À ce moment-là, moi, j'étais déjà reparti parce que j'avais affaire à Seattle. Mais alors, à partir du moment où la vitrine a été cassée, tout le monde a accouru pour voir ce qui se passait. Quant à moi, j'étais à Seattle. Et j'ai été recherché et convoqué à Washington par le FBI au motif que j'étais l'instigatrice de cette révolte.
Peu après la publication de ce livre, qui a un vrai succès de librairie, je ne sais pas, mais en tout cas auprès de la critique. Son père vient de mourir et Edna Gellhorn veut emmener ses deux plus jeunes enfants passer les fêtes de fin d'année et de Noël en vacances dans une petite ville de Floride qui s'appelle Key West. Et c'est là, à Key West, qu'un soir, dans un bar qui s'appelle le Sloppy Joe, Edna Gellhorn, sa fille et son fils vont dans un café et il y a un bonhomme au coin du comptoir, un peu crasseux, elle le raconte comme ça d'ailleurs, en train de dépouiller son courrier, et c'est Ernest Hemingway. Elle admirait follement cet écrivain, elle a très vraisemblablement envie de le rencontrer. Et ça va être extrêmement facile, parce qu'elle, elle est attirée par le grand écrivain, et lui est attiré par les jambes interminables, c'est comme ça qu'il l'a décrit, de la jeune fille. Il la voit, et sur le coup, il dit, voilà, ça va me prendre combien d'heures ou combien de jours pour la mettre dans mon lit. C'est à peu près aussi clair que ça dans sa tête.
Je l'imagine comme une belle femme, blonde.
Catherine Richard, traductrice de Martha Gellhorn.
Mince, un peu un physique de star.
C'est une grande beauté. C'est une femme très admirée par les hommes en général.
Pierre Guglielmina, traducteur de Martha Gellhorn.
Elle a cette sorte d'élégance un peu garçonne, très souvent en pantalon, à une époque où c'est pas encore tout à fait dans le coup. Et elle a cette sorte d'énergie physique qui fait qu'elle est dans des endroits où peu d'autres femmes se trouvent.
Vous marchiez dans une rue remplie des bruits de la ville, les tramways, les voitures, les gens s'interpellant et soudain écrasante, l'énorme explosion caverneuse d'un obus au coin de la rue suivante. Il n'y avait nul endroit où courir se réfugier, car comment auriez-vous su où l'obus suivant allait tomber? Derrière, devant, sur la droite ou sur la gauche? Et s'abriter à l'intérieur était un peu idiot quand vous pouviez voir ce que les obus faisaient d'une maison. Alors vous entriez dans un magasin parce que c'était ce que vous aviez l'intention de faire avant que tout cela n'eût commencé.
Quand éclate la guerre d'Espagne, son obsession qu'elle partage, non seulement avec Hemingway, mais avec beaucoup d'intellectuels américains de l'époque, c'est que ce qui se joue en Espagne, c'est l'avenir de l'Europe et peut-être l'avenir du monde. C'est-à-dire que si, en effet, la rébellion franquiste gagne contre la République espagnole, plus rien ne pourra arrêter la montée du fascisme européen. Et donc, c'est sur cette conviction qu'il veut partir en Espagne avec Hemingway. C'est pas du tout pour écrire sur l'Espagne à l'époque.
C'est pour voir ce qui se passe.
C'est pour voir ce qui se passe.
Et donc Hemingway, il initie au reportage de guerre, mais très vite elle est autonome et elle marche seule dans les rues de Madrid bombardée.
Et Hemingway écrit des choses extrêmement élogieuses sur le courage de cette femme. Il faut imaginer une ville de guerre civile bombardée en permanence. Martha prend des notes, elle ne sait pas quoi en faire. Et c'est en effet Hemingway qui lui dit, mais écrivez tout ça, hein, Martha, mais c'est formidable ce que vous nous racontez. Écrivez-le. Et elle écrit son tout premier article qui va être publié par Colliers. Et après cet article, Martha Gellhorn figure dans l'Ours de Colliers comme leur correspondante de guerre. Et là commence une carrière qui va être très prestigieuse de journaliste de guerre.
En terre d'Espagne, la guerre ne se compose pas d'une série de batailles, c'est une suite de tragédies. Le tranquille village de Brunete sera choisi comme point d'impact de l'offensive républicaine. Objectif, desserrer l'étau autour de Madrid et obliger Franco à dégarnir le front du Nord.
She's very independent. And it's
Mélissa Théo, photographe.
Very easy to be in the shadow of someone like
Martha Gellhorn est très indépendante, alors que ce serait très facile d'être dans l'ombre de quelqu'un comme Hemingway, qui a une personnalité si forte et dont les écrits sont si puissants, mais elle a refusé cela. Et s'est toujours affirmée comme un individu qui ne veut pas être seulement une note de pas de page de la vie de quelqu'un d'autre. Bien sûr, Hemingway a poussé Martha Gellhorn vers un style d'écriture propre.
La grande qualité de son écriture, c'est que c'est toujours très 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 près des choses et des détails. Donc elle rend compte du bombardement de Guernica en 1937 et elle observe cette chose extraordinaire. C'est un immeuble entièrement détruit, sauf une baignoire au 7e étage qui est soutenue par la tuyauterie. Et donc, il se trouve au milieu d'un mur qui, lui, n'est pas tombé, mais la seule chose qui reste de l'immeuble, c'est cette baignoire soutenue par ces tuyaux. Ça permet de résumer, en quelque sorte, toute la guerre en une image. Et ça je trouve que c'est un œil exceptionnel. Et c'est surtout de choisir de rendre compte de la violence des bombardements et de l'absurdité.
Moi, je suis presque jaloux de l'époque de Gellhorn. Elle est dans une sorte de temps béni du reportage.
David Faucambert, écrivain, traducteur de Martha Gellhorn.
Elle arrive et elle dit que le plus dur là-bas, c'est de trouver des moyens de transport. Mais sinon, l'autorisation d'aller tout voir et de participer, d'être dans les combats, d'être dans les tranchées, d'être sur le front, absolument aucun problème. Et elle dit cette phrase géniale, elle dit que c'était une guerre ouverte, intime. Et ce qui est magnifique dans les reportages de Gellhorn, c'est qu'il y a vraiment cette intimité-là. Vous êtes dans la guerre, mais vous êtes vraiment sur le front, vous êtes au ras des choses. Il y a des scènes qu'elle décrit sur l'acharnement des franquistes à tirer sur les écoles, à tirer sur les gens dans la rue et tout ça. Forcément, on pense à la guerre de Bosnie, on pense à Sarajevo et aujourd'hui à Alep en Syrie. On pense vraiment à ça. Et il y a quelque chose de vraiment fascinant chez Gellhorn, c'est la vie, quoi.
Mais dans la guerre, enfin, après, on raconte d'abord les gens, on raconte pas autre chose. Hein.
Sophie Nivelle, Cardinal, reporter, prix Albert Londres 2016.
Il y a beaucoup de morts dans la guerre, mais il y a toujours de la vie. D'ailleurs, c'est ça qui fait tenir et c'est ça qui nous... Enfin, moi, c'est ça que je raconte. Je pense que c'est les gens vivants et même encore dans le film Disparu, pour moi, ce qui fait la différence et qui force le respect, c'est la vitalité, la dignité des survivants. J'ai été parfois dans des situations où je passais la journée dans les tranchées avec les hommes et puis le soir je me retrouvais avec les femmes, avec des bébés qui hurlaient. Et les femmes racontaient beaucoup de choses. Donc j'avais un point de vue sur cette société ou sur la guerre qui était complètement différent. Alors que je sais que j'ai des confrères qui ont pu passer des mois, par exemple à Gaza, en habitant chez les habitants et qui n'ont jamais vu la femme de leur traducteur, par exemple. Moi, par contre, j'ai accès aux deux mondes.
Dans le magasin, cinq femmes sont en train d'essayer des chaussures. Deux filles essaient des sandales pour l'été, assises près de la vitrine. Après la troisième explosion, le vendeur dit poliment « Je crois que vous feriez mieux de venir un peu plus à l'intérieur du magasin. La vitrine pourrait se briser et vous blesser. » Les femmes font la queue, comme elles le font partout dans Madrid, des femmes calmes, vêtue de noir habituellement, avec des paniers sous le bras, attendant de pouvoir acheter quelques aliments. Un obus tombe de l'autre côté de la place. Elle tourne la tête pour regarder, se serre un peu plus contre le mur de la maison devant laquelle elles sont alignées. Mais personne n'abandonne sa place dans la queue. Après tout, elles sont là depuis 3 heures, et les enfants à la maison espèrent bien manger.
Vous pensez que le fait d'être une femme vous posait un regard légèrement différent sur la guerre ?
Souvent on nous dit que les femmes on raconte autre chose. Je pense que de toute façon c'est pas parce qu'on est femme, c'est que de toute façon on vit dans des sociétés où par exemple on joue pas aux petits soldats quand on est enfant. Enfin, c'est pas, en tout cas c'est pas les jeux auxquels on nous dédie, quoi. Donc forcément moi j'ai plus vu chez des confrères hommes une fascination pour la chose militaire que j'ai peu vu chez les femmes. Par contre c'est certain qu'il y a des confrères qui sont fascinés par les armes, qui a un côté petit soldat. Quoi.
Elle n'est pas sur le front comme une femme. Et en même temps, c'est-à-dire elle se met pas en scène comme je suis une femme qui est en train de prendre des risques et tout ça. Elle n'est pas non plus dans une espèce de surenchère, je suis encore plus viril que les hommes, ce qui pourrait être le cas. C'est un être humain qui est sur le front, qui témoigne, quoi. Je trouve que dans ses textes, elle ne met pas trop en scène sa féminité.
Quand vous êtes journaliste, vous n'êtes pas vraiment une femme. Vous êtes d'abord un journaliste étranger. Vous êtes un troisième genre. J'ai été dans des situations où des chefs salafistes, à la base, voulaient pas me parler, pas me serrer la main. Et puis 3 mois après, quand je les retrouvais, on fumait des clopes ensemble. Et puis ils étaient toujours salafistes, quoi. Sauf que la guerre était passée par là. Et que bon, bah, dans la guerre, les choses se passent un peu différemment. Moi, j'ai passé beaucoup de temps seul avec dans des katibas, dans des brigades d'hommes, parce qu'il y avait un lien de confiance et d'amitié qui s'était installé.
La lampe torche faiblissait et la boue collait à nos chaussures. Et nous devions marcher la tête baissée pour éviter de nous cogner contre les poutres basses qui consolidaient la tranchée. Il faisait très froid. Dans la troisième ligne, nous nous sommes appuyés contre les parois boueuses et nous avons regardé les arbres minces émondés dans ce qui avait été autrefois le parc d'une ville. Et nous avons écouté. Nous étions venus entendre les haut-parleurs. La nuit, un camp ou l'autre offre aux soldats dans les tranchées un programme de propagande ou de musique. Les haut-parleurs étaient cachés près de la ligne de front, et vous pouviez tout entendre, aussi clairement qu'une conversation téléphonique. Ce soir-là, c'était l'ennemi qui parlait. Une voix de radio pompeuse et appliquée a commencé. Le chef de l'Espagne, le seul chef qui soit prêt à donner son sang pour vous, Franco. un autre soldat nous avait rejoints. Et lui et notre guide ont allumé nos cigarettes. Et notre guide, qui voulait que nous passions un bon moment, a dit « La partie parlée est très ennuyeuse, mais elle ne dure pas longtemps. Ensuite, il y a de la musique. » Soudain, à tue-tête, à travers le No Man's Land, nous avons entendu « Kit and the Keys » jouer cette fois trop vite. « Ah, c'est très joli », a dit notre guide. « C'est de la musique américaine. » La musique, c'est très bien. Nous apprécions tous la musique. Ça aide à faire passer le temps.
Il y a une sorte de camaraderie qui est magnifique dans ces textes. Il y a une camaraderie comme ça avec les militaires, mais aussi avec les civils qu'elles rencontrent, où il y a une sorte de confrérie, quoi. On est tous ensemble dans la même galère, on est tous ensemble avec le même idéal. Ça abolit un peu les frontières et les distances, cette espèce de confrérie. Et puis c'est écrit quand même dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50. Et le fait que cette femme, elle soit là, à partager des moments hyper intenses avec des militaires, avec des naufragés, ça a aussi un sens politique, quoi. Je pense que c'est un des rares domaines, peut-être à l'époque, où il y avait cette abolition des genres, quoi.
Elle ne s'intéresse pas à la guerre du point de vue des objectifs militaires, des conflits idéologiques, des forces engagées, des résultats stratégiques sur le terrain. Elle s'intéresse aux sensations qu'elle éprouve devant le monde affecté par la guerre. La guerre jusqu'à elle, en quelque sorte, a été vue de dos. C'est-à-dire que les journalistes voyaient la guerre du point de vue des militaires et jamais du point de vue des conséquences de la guerre. Et Gellhorn s'intéresse tout à coup à l'autre face de la guerre, à un moment où les populations civiles deviennent des objectifs militaires. Ça, c'est le point qu'elle observe de manière, je crois, très précoce en Espagne et qui lui fait dire que la guerre a complètement changé de nature.
Marc Kravets, au retour de la guerre d'Espagne, Martha Gellhorn se marie avec Hemingway en novembre 1940 à Cheyenne. Martha Gellhorn a 32 ans.
Plus mondain, on ne peut pas quand même, parce que le mariage Hemingway-Gellhorn est un sujet de 6 pages dans l'AF à l'époque. C'est un événement mondain pas possible. Le président des États-Unis envoie un mot, enfin bon. Les seules photos du mariage qu'on ait, c'est les photos de Robert Capa. Donc ils se marient, en effet, en 1940. Et ensuite, ils vont aller habiter à Cuba.
Alors, Martha Gellhorn propose un voyage de noces un peu particulier à Hemingway. Alors, elle l'oblige à partir en Chine.
Martha ne tient pas en place. Colliers veut à tout prix envoyer quelqu'un en Extrême-Orient sur le front de la guerre sino-japonaise à l'époque. Et Martha va voir Ernest en lui disant ben voilà, partons ensemble. Et pour la première et dernière fois d'ailleurs, Hemingway va accepter. Et donc ils font un voyage extrêmement difficile que Martha a raconté par la suite. Ça a été traduit en français donc, par David Fauquemberg.
Évidemment, j'ai traduit ces voyages cauchemardesques. Alors c'est quand même un peu particulier puisqu'elle est toujours dans des situations un peu. Elle est un peu odieuse avec les gens parfois. Mais c'est ce que disait Hemingway. Il disait « Martha, elle aime l'humanité, mais elle déteste les gens. » Dans ses voyages, tout ce qui s'oppose à ce qu'elle cherche, et ce qu'elle cherche finalement, c'est l'action, c'est la compagnie de gens courageux, de gens qui ont un idéal, de gens qui se battent. Tout ce qui s'oppose à ça dans ses voyages, ça la met hors d'elle. Et quand elle voyage entre Hong Kong et la Chine, elle est dans des avions qui ne sont pas climatisés ni rien. Et par moments, elle dit qu'à un moment, elle ne peut plus bouger les mains et qu'elle se sent défaillir parce qu'il n'y a pas d'oxygène, elle n'a pas de masque à oxygène. Et là, elle le supporte très bien parce qu'elle est dans l'action. Par contre, quand elle doit attendre 3 semaines pour aller dans un endroit, le moindre cafard dans la salle de bain et tout ça, là, elle la met dans des états qui sont très drôles. Elle a beaucoup d'autodérision, elle ne se prend pas au sérieux pour ça. Mais enfin, voyager avec, voyager avec Martha Gellhorn, ça devait quand même être quelque chose. Elle est... C'est la personne à qui vous voyagez, qui vous gêne quand vous arrivez dans un hôtel, par sa manière de parler au réceptionniste et tout ça.
5 février. J'ai quitté les horreurs du grand hôtel pour les horreurs du parc hôtel. Des mégots de cigarettes dans tous les recoins de la chambre, les draps du précédent occupant, une salle de bain sordide au sol de ciment craquelé, mais mes propres toilettes. Sartre aurait dû voir ces endroits. Il lui aurait inspiré le décor parfait pour sa chambre d'hôtel en enfer. le privilège de résider dans ces infâmes taudis est facturé $12.50 par jour. Les deux plats immangeables du déjeuner coûtent $4.40. Rien d'étonnant à ce que les gens trouvent étrange, pour ne pas dire suspect, que je puisse voyager en Afrique pour mon plaisir.
Martha est devenue une journaliste vedette du magazine Colliers, et elle n'est réellement heureuse que comme ça. Et donc elle rentre à Cuba entre deux reportages. Ça se passe de plus en plus mal avec Hemingway, qui un jour lui dit « Est-ce que j'ai épousé une correspondante de guerre ou une femme pour mon lit ?» Enfin, c'est à peu près aussi élégant que ça, son télégramme. Et tout ça va se terminer en 1944.
Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes...
Tout le monde sait qu'il va y avoir le grand débarquement des troupes alliées, notamment américaines, en France. Et évidemment, tous les journalistes veulent en être. Il n'y a pas une seule femme, sauf Martha Gellhorn, qui est retenue dans ce futur staff. Et donc, Martha continue de plaider auprès des Hemingway, de dire « Mais écoute, tu ne peux pas louper ça, viens avec moi ». Et Hemingway aurait pu signer pour n'importe quel journal. Non, il choisit Colliers. C'est-à-dire, il choisit, en gros, le journal où sa femme est accréditée. Donc, en clair, il lui pique sa place. Mais ça ne fait pas renoncer Martha Gellhorn pour autant. Et elle obtient d'un ami qu'on lui trouve une place sur un cargo norvégien bourré d'explosifs. Elle est la seule passagère. Elle fume ses 3 paquets de cigarettes à la menthe là par jour. Il est interdit évidemment de fumer au milieu de ce baril d'explosifs. On la laisse fumer près d'un hublot. Enfin bon. Mais elle va vivre 17 jours de traversée là réellement cauchemardesque. Et elle arrive en Angleterre, donc quelques jours, semaines avant le D-Day. Et c'est là qu'elle invente une chose prodigieuse. Elle va sur les quais où il y a tous les bateaux qui partent pour l'Europe, et notamment, elle avise un navire hôpital. Et donc, elle se présente au pied du navire, à l'échelle, et dit, voilà, je suis une journaliste d'un magazine américain qui veut faire un reportage sur les infirmiers. Donc, on la laisse monter sur le navire. Et là, à peine sur le navire, elle s'enferme dans les toilettes, et elle attend que ça bouge, et le navire se va vers les côtes normandes, où elle arrivera le 7 juin au matin, donc le lendemain du D-Day. Et donc, elle va sur l'une des plages du débarquement, et on s'apercevra plus tard que les journalistes du staff qui étaient sur les péniches n'ont pas pu, eux, y compris Hemingway, n'ont pas pu débarquer.
Il faut le souligner, il y a un courage physique chez Martha Gellhorn qui est absolument exceptionnel. Elle n'a peur de rien.
Pierre Guglielmina.
Il faut savoir que ces plages sont entièrement minées, que les eaux qui séparent les bateaux hôpitaux de la plage sont elles aussi minées. Donc elle prend des risques énormes pour accomplir cette mission et pour voir les choses de près.
Elle aide à la traduction, puis elle aide aussi à porter des brancards.
Oui, je ne suis pas sûr qu'elle se sente une âme d'infirmière, mais elle sent bien que si elle veut voir le plus de choses possibles, il faut qu'elle joue un certain nombre de rôles et qu'elle se trouve dans un certain nombre de situations auxquelles elle n'aurait pas accès si elle se contentait d'être simplement journaliste. Mais elle le fait parce qu'elle sent bien que c'est là qu'elle va trouver, une fois de plus, la matière qui est la sienne.
Et donc l'article qui fera la couverture de Colliers avec Hemingway nous dit « Voilà comment nous avons débarqué ou gagné la guerre du débarquement en Europe ». Il l'a fait depuis le pont de la péniche de débarquement à la Jumelle, alors que Martha Gellhorn, qui n'a aucune accréditation de rien du tout, elle est allée sur la plage.
C'est la seule journaliste à être allée sur cette plage du débarquement.
Absolument. Ce qu'Hemingway prendra très très mal. Mais en fait, ils ne se reverront qu'une seule fois pour le divorce quelques semaines plus tard. Donc,
le 21 décembre 1945, ils divorcent.
Elle s'est mise au contact de la guerre à penser. Donc elle est militante pacifiste pendant un certain nombre d'années, à la fois en France et en Allemagne. Elle circule beaucoup en Europe. Dans les années 30, elle est très intéressée par l'idée d'une réconciliation entre l'Allemagne et les puissances alliées. Et puis, elle arrive en Espagne et elle change complètement d'avis sur la question. Et comme elle le dit, j'étais pacifiste et je suis devenu antifasciste.
À Dachau, si vous voulez vous reposer d'une horreur, vous allez en voir une autre. La prison était un long bâtiment composé de petites cellules blanchies à la chaux. Vivaient là les gens que les prisonniers appelaient les NN. NN signifie Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Traduit en des termes moins romantiques, cela signifie que les prisonniers de ces cellules ne voyaient jamais un être humain, n'étaient pas autorisés à parler à qui que ce soit, ne pouvaient jamais sortir pour prendre l'air ou le soleil. Ils étaient au secret, se nourrissaient d'une soupe inconsistante et d'un morceau de pain qui était le régime du camp. Ils couraient, bien entendu, le risque de devenir fous. Pendant toutes ces années de silence, personne n'avait jamais su ce qui leur était arrivé. Et ça, c'est le même principe qu'on retrouve dans cette politique d'État mise en place en Syrie par le régime.
Sophie Nivelle-Cardinal, reporter de guerre.
C'est-à-dire que les gens qui ont disparu, personne ne sait où ils se trouvent. Et ils sont enfermés au secret, sans voir le jour, enfin dans des circonstances, dans des conditions qui sont inhumaines. Nous, dans notre film, enfin un des témoins nous dit « mais j'étais plus rien, c'était même pas la vie d'un chien, d'un animal, c'était la vie d'un insecte. Je ne faisais que survivre. » Et oui.
Et là, c'est le choc absolu. Martha va changer totalement de vision du monde. Après Dachau, elle pense que la cruauté du monde est sans limite. Elle a une vision extrêmement désabusée de l'humanité et de son évolution. Et elle va aussi découvrir, d'une certaine façon, ses racines juives à elle. Et elle devient une partisane, militante d'Israël, de façon inconditionnelle. Plus jamais faudra lui parler des Palestiniens.
Dans ce texte sur Dachau, elle dit encore « je ne sais pas comment l'expliquer ». Donc elle décrit la première fois, ils rentrent dans le camp, et là ils arrivent, ils arrivent autour des fours, quoi. Donc il y a tous ces tas de cadavres. Et elle dit « je ne sais pas comment l'expliquer, mais en plus de la terrible colère que vous éprouvez, vous avez honte. Vous avez honte pour l'humanité ». Elle décrit les gens qui sont les rescapés du camp. Et elle dit « ils se ressemblent tous et ne ressemblent à rien de ce que vous pourrez jamais voir si vous avez de la chance ». C'est dans ces phrases-là, je ne parlerai pas de syndrome post-traumatique, mais quand quelqu'un écrit que ce qu'elle voit, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais voir si vous avez de la chance, c'est une façon de dire « moi j'ai eu la malchance de voir ça ». Elle est complètement détruite par la guerre.
Elle voit les choses avec une très forte charge émotive et le style vise à refroidir tout ça. Donc elle est très froide et succincte. Elle dit les choses avec une grande économie de moyens, même quand elle parle de choses qui pourraient donner lieu à un certain sentimentalisme. Je pense par exemple à ces articles où elle décrit les hôpitaux d'enfants pendant la guerre d'Espagne. Elle est d'une froideur et d'une lucidité très grande.
Il y a une fêlure, quoi. Il y a vraiment quelque chose, une incapacité, une vie intérieure qui ne lui permet pas de s'asseoir dans un endroit pendant une semaine où il ne se passe rien, où personne ne se bat, où il n'y a pas de drame et tout ça. On a l'impression que pour elle, ça, c'est très compliqué. Et qu'elle n'est jamais aussi heureuse que quand finalement elle peut s'oublier. Il y a un passage que je vais chercher là, dans le livre, qui, à mon avis... Il y a un passage, en fait, qui est dans une des introductions à ces reportages. Donc, c'est la guerre de face. Et elle dit « rempli de joie d'y être, de me sentir dans le monde de nouveau ». Donc, c'est vraiment pour elle, quand elle va à la guerre, c'est ça. « Il est trop difficile de se tenir à l'écart et de regarder ce qu'on ne peut ni améliorer ni changer. Il est bien plus facile de fermer les yeux et l'esprit et de sauter au beau milieu de la misère généralisée où on n'a pratiquement plus de choix à faire, mais où on est entouré d'une compagnie magnifique. » C'est très beau ce qu'elle dit là, mais en même temps, c'est tragique. C'est-à-dire que son rapport à la guerre, son rapport au reportage, c'est fermer les yeux et l'esprit et de sauter au beau milieu. L'idée de se retrouver face à elle-même, on le voit dans Mes saisons en enfer, l'idée d'être dans une chambre comme ça, avec rien à faire et pas de papier à écrire, pas de soldats à les rencontrer, pas d'indicateurs, pas de rencontres clandestines, c'est ça le cauchemar pour elle. C'est pas un hasard que si elle a choisi vraiment ces 5 voyages cauchemardesques, le point commun de tous ces voyages, c'est l'ennui. C'est qu'elle voulait qu'il se passe certaines choses, et elles ne se sont pas passées. Et elle le dit dans Mes saisons en enfer, on peut dire ce qu'on veut sur la guerre, mais quand on arrive sur le front, ce n'est pas ennuyeux. Et ce terme, en anglais « boring », Ça revient tout le temps. Et ce degré d'intensité qui lui fait échapper à l'ennui, elle le trouve finalement que dans la guerre et avec les gens qui font la guerre, parce qu'elle a une admiration incroyable pour les soldats, pour les résistants, parce que c'est des gens, c'est encore une formule qui revient souvent, qui savent ce qu'ils font et pourquoi. C'est des gens qui sont totalement engagés dans leur activité, ils sont à fond, ils ont une idée à défendre, un endroit à défendre, et ils se donnent complètement.
La majorité des gens, ils sont faits pour avoir une vie beaucoup plus tranquille, et moi j'y arrive pas. J'ai le goût de découvrir beaucoup de monde, de pas être toujours au même endroit, surtout pas.
Vous recherchez l'intensité ?
En tout cas, oui, moi je m'ennuie assez rapidement, ouais. Moi, je peux pas vivre au même endroit trop longtemps. Sur les 6 dernières années, j'ai déménagé 7 fois dans 3 pays différents, donc ça bouge.
Au début de mes saisons en enfer, elle compte tous les endroits où elle a habité. Et en fait, la plupart des endroits où elle habitait, elle appelle ça ses meublés provisoires. Et elle a 17 meublés provisoires où elle allait pour écrire, en fait. Et donc, elle choisissait en général des endroits avec un paysage et surtout une plage en bas, parce qu'elle passait des heures à nager nue dans la mer quand elle écrivait.
Je ne peux pas véritablement comprendre pourquoi elle a été à ce point passionnée par la guerre. J'émettrai une hypothèse qui est de dire que c'est là qu'elle a appris à écrire. Elle est constamment tentée de revenir vers la guerre pour apprendre des choses nouvelles. C'est l'instrument, en quelque sorte, qui lui permet de progresser. Donc il y a une sorte de dette technique par rapport à la guerre.
Il y a cette espèce de mission qu'elle se donne aussi, Gellhorn. Elle est désespérée, mais en même temps, elle sent bien que la seule chose qu'elle peut apporter, puisqu'elle ne peut rien changer, être sur place et après témoigner, et puis après être ailleurs et témoigner. Mais il y a quand même une sorte de fuite en avant chez Gellhorn qu'on sent vraiment dans son parcours, c'est invraisemblable. Elle a couvert tous les conflits, elle publiait quand même pendant 30 ans des articles très régulièrement dans le Pacific Monthly ou quelque chose comme ça. Sa vie, c'est que le front, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de vie de famille, qui s'est complètement abandonné à la guerre.
Quand les obus vous réveillent, vous pensez tout d'abord que c'est le tonnerre. S'il ne tombe pas trop près, il ne vous réveille plus. Vous saviez qu'en novembre, il y avait des bombardiers Junker noirs. Vous saviez que tout l'hiver, il n'y avait pas de fioul et que les journées étaient froides et les nuits plus froides encore. Vous saviez que la nourriture se faisait rare et que tous ces gens avaient des fils, des maris, des fiancés quelque part sur le front. Et maintenant, ils vivent dans une ville où vous devez courir votre chance et espérer qu'elle soit bonne. Vous n'avez pas vu la moindre panique, la moindre hystérie, vous n'avez pas entendu un mot de haine, vous savez qu'ils ont ce genre de foi qui donne du courage et un bel avenir. Vous n'avez aucun droit d'être troublé, il n'y a plus de lumière nulle part, et la ville elle-même est silencieuse. La seule chose raisonnable à faire, c'est de se rendormir. C'est le reportage qui s'appelle « Explosif pour tout le monde » en juillet 37.
En Espagne.
Ça me fait penser à une nuit à Alep où effectivement je me réveille parce que ça bombarde et que moi j'ai aucun souci de sommeil, donc ça faisait plusieurs semaines que j'y étais et que je dormais sans être réveillée, sauf que là l'avion bombarde littéralement au-dessus de nos têtes. Je suis avec un autre photographe et un activiste syrien, on est tous réveillés, on se colle tous contre un mur. Et l'avion descend à pic littéralement au-dessus de nous et largue 6 bombes. Donc on attend à chaque fois et puis c'est l'enfer et on se dit qu'on va mourir. Et puis ça s'arrête et puis on va dormir. Voilà, tout simplement parce que y a rien d'autre à faire que dormir.
Pierre Guglielmina, est-ce qu'on peut penser que la guerre est une drogue pour Martha ? Une drogue qu'elle utilise comme un anesthésiant à ses propres souffrances ou pour donner un sens à sa vie?
C'est vrai que c'est incroyablement intriguant. La façon dont elle se consacre en quelque sorte à la guerre pendant toute sa vie, aux dépens de toute autre vie réelle. C'est-à-dire que après Hemingway, elle épouse un deuxième mari, mais on voit bien que c'est une relation qui est un peu une relation de convenance. Oui, c'est une façon pour elle de pouvoir rester en Angleterre. Elle adopte un enfant avec qui elle a des rapports quand même incroyablement conflictuels et difficiles. Et sa véritable passion, c'est de repartir sur le front dès qu'elle en a l'opportunité.
Vous parlez de rapports conflictuels que Martha Gellhorn a eu avec son fils adoptif, son fils Sandy, qu'elle a adopté quand il a 8 ans dans un orphelinat en Italie.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce rapport ?
Je sais qu'elle a une sorte d'étrange sentiment maternel, très artificiel. C'est-à-dire qu'elle se dit à un moment, il faudrait quand même que je connaisse cette affaire de maternité. Et donc elle adopte cet enfant.
Elle a 41 ans.
Oui, et elle fait ça de manière un petit peu volontariste. Mais elle est constamment dans une sorte de va-et-vient entre une trop grande intimité avec son fils, à des moments où il n'en a pas envie, et puis des moments où elle le rejette de manière quasiment brutale.
En tout, elle a connu 4 voire 5 avortements, dont 2 après avoir adopté un enfant. Donc c'est d'autant plus étrange. Est-ce qu'elle ne voulait pas d'enfant à elle ? Est-ce qu'elle ne voulait pas d'enfant des hommes dont elle était enceinte ?
Elle a un rapport un peu étrange à l'amour physique et à ses conséquences. Elle dit que l'amour physique ne l'a jamais vraiment intéressée, qu'elle s'y est prêtée par conformisme social. Comme l'amour physique ne représente pas du tout une sensation exceptionnelle pour elle, je crois que les conséquences négatives de l'amour physique doivent être traitées de la manière la plus expéditive et la plus froide possible, et donc elle avorte plusieurs fois dans sa vie et ça, là encore, ce sont des épisodes qu'elle traite avec une grand détachement.
Chère Lucie, je veille ma mère sur son lit de mort. J'attends la libération à ses côtés, jour après jour. Je ne peux m'empêcher de pleurer quand je suis à ses côtés. Et quand je ne le suis pas, j'ai la sensation irréelle d'évoluer dans la vie de quelqu'un d'autre. Rien n'a plus de sens. Tout m'est insupportable. Je pense au camp de concentration pour relativiser la souffrance que je traverse. J'ai vu tant de gens mourir, mais c'était des morts rapides. La mort rapide est une chance. Il n'y a ni Dieu ni justice. Ce superbe être humain ne devrait pas avoir à combattre sans fin des jours et des jours pour pouvoir partir.
La relation entre la mère et la fille est une relation quasi fusionnelle. Pendant plus de 40 ans, elles se sont écrites pratiquement tous les jours, et parfois plusieurs lettres par jour. Et quand je parle de lettres, c'est pas pour parler moderne, des tweets, hein. C'est des lettres de 7, 8, 10 pages. Et puis, à un moment donné, quand elle perd sa mère, elle écrit une série de novellas, des longues nouvelles, des petits romans. À propos de l'Afrique, elle a un mal fou. Elle est terminée, elle n'y arrive pas. Et son écriture est complètement bloquée, elle n'arrive plus à écrire. Et elle dit, si en plus, je ne peux plus écrire, c'est comme si j'étais mort.
Le 24 septembre 1970, Edma, ma mère, est morte. Elle avait 91 ans. C'était la seule personne qui ne m'ait jamais possédée. Sans sa présence, la vie est insoutenable.
Catherine Richard, Martha Gellhorn, d'après vous, elle serait plus journaliste qu'écrivain ?
Absolument. Elle a une technique d'écriture et une maîtrise de la langue, de l'art du récit, de la dynamique d'un récit qui est irréprochable. Donc je pense que c'est une excellente journaliste. Et en revanche, la psychologie des personnages, ce qui fait en fait la valeur humaine, si on peut dire, d'un personnage de fiction, est défaillante chez elle.
Qu'est-ce qui lui manquait pour être une bonne romancière ?
L'empathie, la faculté d'entendre l'intérieur des autres. Je pense qu'elle ne devait pas prendre le temps d'écouter ça chez elle, ou peut-être l'enfouir.
Peut-être que ça lui faisait peur.
C'est probable. Il y a de toute façon une raison qui a disparu avec elle, mais une raison au fait qu'elle ne parle pas de ses sentiments et que ce peu d'empathie qui devait être un trait de sa personnalité transparaît dans son écriture.
Gellhorn, elle a quelque chose qui est inacceptable de mon point de vue et qui en même temps aussi lui donne une force comme écrivain et comme reporter, c'est qu'elle reste elle-même en fait en toutes circonstances. Elle reste une Américaine de la classe supérieure. Quand elle débarque en Afrique ou en Chine, elle est cette Américaine éduquée, avec une sorte quand même de sens de supériorité, quoi, une impression d'être quand même un peu supérieure à la chinoise de base et tout ça. Donc il y a ça quand même chez Gayland, qui est aussi le fait d'une époque. On est encore dans un monde colonial où ces idées-là sont quand même dominantes.
Mais elle en a conscience.
Elle en a conscience, mais par exemple, en Afrique, il y a ce passage qui était très dur pour moi à traduire, où elle parle de l'odeur des Africains. Bon, et tout de suite, elle désamorce ça quand son boy lui fait comprendre que lui aussi a du mal avec son odeur. Donc il y a une sorte de réciprocité.
Et puis, il y a l'odeur. Je ne m'étais jamais rendu compte que l'odorat pouvait être le plus grand obstacle à la fraternité entre les hommes. L'odeur des Noirs me donne littéralement la nausée. Je n'ai jamais rien senti de pareil. Et j'en ai vraiment honte. J'en ai parlé à Jean et Aya. Aya et Jean m'ont répondu qu'ils ne s'y étaient jamais habitués. On apprend à le supporter, c'est tout, à contrôler ses réactions. J'ai alors fait remarquer que si leur odeur nous semble si révoltante, ils tombent sous le sens que la nôtre doit leur paraître tout aussi repoussante. Oui, a confirmé Aya. Ils disent que nous sentons le cadavre. Ils trouvent cela écœurant. Voilà qui me rassure. Ce n'est que justice.
Gellorn, le côté ethno, l'intéresse pas du tout. C'est-à-dire, elle pense que l'être humain est le même partout et que finalement, les différences culturelles, les différences de vision du monde, de mode de vie, sont des différences superficielles. C'est ce qu'il y a en dessous qui est important. C'est l'humain, c'est l'universel. Ça donne de la force à ses reportages. Parce qu'elle va tout de suite à des choses vraiment essentielles. Elle est jamais dans l'exotisme.
La période pendant laquelle elle n'est pas reporter de guerre, c'est une période pendant laquelle elle explore l'Afrique de manière quasi systématique, et elle y va par pur souci de découvrir un continent qu'elle ignore. Il y a un épisode assez dramatique d'ailleurs de sa vie, vous savez, puisqu'elle a été violée en Afrique, sur une plage du Kenya, je crois. Et c'est un épisode sur lequel elle est d'une discrétion absolue. Elle n'en parle pas, l'épisode reste une sorte d'énigme.
Le 7 mars 1988, Niali Mombasa. Mes chers, écoutez bien, c'est important. Ma joie d'être ici, nos vacances paradisiaques passées ensemble et la beauté de ce lieu ne doivent en aucun cas pour un seul instant être abîmées et salies par l'affreuse mésaventure dont je vais vous faire part. Les femmes ont toujours été violées, depuis la nuit des temps et sous toutes les latitudes. L'année dernière, je me souviens avoir lu l'histoire de deux sœurs âgées, bien plus que je ne le suis, et de deux petites filles âgées de 8 et 9 ans qui ont été violées et tuées. Cette fois, c'est mon tour. Mais cela ne change rien. Je ne suis pas un cas à part. En fait, je m'en sors plutôt bien. C'est vrai que j'ai eu peur. Mais j'ai été bien souvent plus effrayée par les bombes. La peur ne vous fait mal, seulement si vous la laissez modifier vos attitudes et vos actions. Ce que je ne la laisserai certainement pas faire.
Un matin, elle va à la plage. Et elle se fait agresser par un homme qu'elle ne voit pas d'ailleurs, qui l'agresse par derrière. Et qui la jette à terre et qui la viole.
Elle a 80 ans.
Et sa première réaction, c'est elle reprend sa voiture, elle va voir un médecin, elle a quelques blessures au genou quand le bonhomme l'a jeté par terre, elle se fait examiner, pas bon. Et ensuite seulement, elle téléphone à ses amis qui lui disent « Attends, viens à la maison. » Et c'est là qu'elle leur dit « Si on se laisse dominer par sa peur, vous n'êtes plus rien. Donc, je ne changerai pas ma façon d'être. »
Teve o prazer de lhe oferecer essa paisagem sonora do rio e espera ter o privilégio de acolhê-lo proximamente a bordo. Varig propõe 7 voos semanais entre a França.
En fait, elle va encore accepter un reportage que lui commande d'ailleurs la revue Grantin au Brésil.
Donc c'est en 95.
Oui.
Elle a 87 ans. Elle part au Brésil. Les assassinats d'enfants des rues.
C'est des assassinats d'enfants de rue, mais elle ne peut plus travailler seule. Donc, même pour prendre des notes, ça devient très compliqué. Donc, elle est obligée d'être assistée en tout. Elle ne peut plus écrire. Elle déteste ça, mais elle doit dicter à quelqu'un d'autre ce qu'elle voudrait écrire.
Parce qu'elle perd la vue.
Elle a beaucoup usé de la vie, quand même. Elle a une grande hygiène de vie, au sens où toute sa vie, elle a couru, elle a nagé, elle a plongé. Elle fume ses 2 à 3 paquets de cigarettes par jour. Et elle n'est pas paresseuse sur le whisky, sur le gin, même si, vers la fin de sa vie, elle ne boit surtout que du vin. Elle aime les plaisirs de la vie. Passé 85, 86 ans, ça va de moins en moins bien pour elle. Et donc, après ce reportage, quand elle revient chez elle à Londres, il y a tous ces carnets, il y a des notes partout, il y a cette correspondance prodigieuse, et tout ça, elle en fait une énorme flambée. Alors, combien elle a brûlé par rapport à ce qu'elle a gardé, on ne sait pas, mais elle met à part ce qu'elle garde. Ce qu'elle garde, elle le confie elle-même à cette bibliothèque universitaire de Boston, avec interdiction de les consulter dans les 25 ans qui, après sa mort, et ensuite les gens feront ce qu'ils voudront. Et puis, bah, après tout ça, elle fait un ménage impeccable chez elle, elle change les fleurs, elle veille à ce que tout soit en ordre, elle s'allonge sur son lit, elle prend une provision de cachet qu'elle avait réservée à cet usage depuis longtemps, et elle s'endort pour toujours. Elle contrôle tout jusqu'aux derniers gestes, et son ultime volonté, c'est tous ses amis qui se rassemblent chez elle, toutes les bouteilles sont prêtes, et qui, en gros, boivent et se racontent des histoires du bon temps.
Elle fait exception, une fois de plus. C'est-à-dire qu'elle est d'une grande, grande énergie et présence physique, chaque fois, partout où elle est.
Jusque dans la mort.
Oui, jusque dans cette décision de se suicider, assez froide. Et elle a 90 ans, je crois, ou 89 ans. Et c'est une décision qu'elle prend avec, oui, avec l'énergie qu'il faut, parce qu'il faut encore un peu d'énergie pour faire ça.
Martha Gellhorn racontait la guerre toute sa vie avec David Faucambert, Marc Kravets, Mélissa Théo, Sophie Nivelle Cardinal, Pierre Guglielmina, Catherine Richard.
Puis avec nous Alissa Rubin, chef du bureau du New York Times à Paris, grand reporter, qui a obtenu il y a quelques semaines le prix Pulitzer 2016. Alors quels sont vos modèles en matière de ce qu'on appelle le narrative non-fiction, donc de journalisme écrit, d'histoire? Vous avez des auteurs que vous recommanderiez comme ça à nos auditeurs?
Oui, j'aime beaucoup Martha Gellhorn, qui était l'amie de Ernest Hemingway. Elle a fait les très émouvant, très émotionnel, raconte pendant la guerre en Espagne civile, et après la Deuxième Guerre mondiale, et elle a fait beaucoup sur sujet des civils, des personnes ordinaires.
Alors c'est un journaliste qui n'est plus très en vogue, mais je suis convaincu qu'il ne cessera de revenir. Je pense que c'est un besoin vital. Le besoin de comprendre le monde, bien sûr. On sent le regret. C'est quand je regarde là où elle est passée, au moment où j'aurais pu la croiser, de ne l'avoir jamais rencontrée.
Oui, j'aurais aimé rencontrer Martha Gellhorn dans la mesure où je pense que nous, les femmes, on a besoin de modèles et qu'on n'en a pas assez. Pour dire que bah oui, c'est possible. Et il faut dire qu'il y a des femmes qui ont fait des choses extraordinaires, exceptionnelles. Donc il faut continuer à être les témoins de petites histoires pour la grande histoire.
Merci à Sandrine Duvillier et Valérie Millet des éditions du Sonneur, François Mali et Dany de Ribas des Belles Lettres, Marie-Cécile Destando, Valérie Borst, Thomas Serre et Romain Romastin. Lecture par Lara Brühl, extraite de La Guerre de Face, Les Saisons en Enfer, et de la correspondance de Martha Gellhorn, publiée par Caroline Mouroed. Prise de son, Delphine Baudet, Arthur Gerbeau, Bernard Laniel, Alain Joubert. Mixage, Manu Couturier. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Coordination, Irène Omelianenko, Claire Pointinon. Une émission de Pauline Mocor.
Cette émission est disponible en écoute ou podcast sur le site de France Culture. Rendez-vous la semaine prochaine pour Une vie, une œuvre, Chantal Akerman.